VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 6 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit se rendre pour la première fois en Afrique à la mi-février.
Au Togo, début officiel de la campagne pour la présidentielle du 22 février.
Et au Burkina Faso, c'est le 22 novembre qu'aura lieu la présidentielle couplée aux législatives.
Au Mali, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a fait 7 morts à Kera, dans le district sanitaire de Mopti.
Le président américain Donald Trump a été acquitté hier par le Sénat à l'issue de son procès historique en destitution.
En Chine, plus de 28 000 cas de coronavirus maintenant et 563 morts selon les autorités sanitaires.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendra en Afrique à la mi-février pour son premier voyage sur le continent. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Les 15 et 16 février, le secrétaire d'État américain sera à Dakar pour évoquer avec le président sénégalais Macky Sall un renforcement des relations déjà fortes entre les deux pays en matière de sécurité et d'économie. Le 17 février à Luanda, il rencontrera le président angolais João Lourenço pour réaffirmer le soutien des États-Unis aux efforts de l'Angola contre la corruption et en faveur de la démocratisation. Selon sa porte-parole Morgan Ortagus, M. Pompeo va s'entretenir aussi avec les milieux d'affaires de ce pays pétrolier. Enfin, jusqu'au 19 février, le secrétaire d'État fera étape à Addis Abeba pour y rencontrer à la fois le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'Érythrée voisine, et Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Rex Tillerson, le prédécesseur de M. Pompeo, au début du mandat du président Trump, avait fait un voyage en Afrique en février 2018. Hasard du calendrier, il avait été limogé dès son retour aux États-Unis.
Au Togo, c'est aujourd'hui que démarre la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février. À la veille de cette campagne, l'effervescence n'était pas au rendez-vous dans le pays, comme ce fut le cas les années précédentes, selon notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
En fait, les candidats peuvent aller officiellement séduire les électeurs. Officiellement, car ces derniers jours, même avant l'ouverture de la campagne électorale, certains candidats étaient déjà allés à la rencontre des populations. Les Togolais sont plus calmes que d'habitude à la veille d'une élection présidentielle. La démobilisation a eu raison des militants et sympathisants de l'opposition, estiment les analystes politiques. Du côté du pouvoir, on est à la pêche des indécis et ou des déçus. La campagne électorale s'annonce comme celle de 2015, dans un calme plat sans réels enjeux. En jeu, bien sûr qu'il y en a. Le président sortant doit non seulement défendre ses 15 années passées à la tête du pays, mais aussi l'héritage de son feu-père, l'ancien président Gnassingbé Eyadema. L'opposition, elle, continue de caresser le rêve de l'alternance pour l'avènement d'un réel état de droit. La campagne électorale se déroule jusqu'au 20 février sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi dans les 6 circonscriptions électorales de la diaspora, notamment aux États-Unis, en France, au Maroc, au Gabon, en RDC et au Nigeria. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, c'est le 22 novembre qu'aura lieu l'élection présidentielle et elle sera couplée aux législatives. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo, de Ouagadougou, correspondance de Lamine Traoré.
Les élections couplées, présidentielles et législatives, se tiendront le dimanche 22 novembre 2020. L'information a été rendue officielle par le ministre de l'administration du territoire. Le Conseil des ministres a adopté 2 décrets portant fixation de la date des élections présidentielles et législatives de 2020. Et techniquement, on appelle cela la convocation du corps électoral qui est prévue pour la date du 22 novembre 2020, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo. À partir de ces 2 décrets, la CENI va travailler à la confection des listes électorales qui vaudront pour la présidentielle, pour les législatives, mais aussi pour les municipales qui vont venir en 2021, a-t-il ajouté. Ainsi donc la CENI, Commission électorale nationale indépendante, va travailler à la confection de la liste électorale, mais aussi à l'opérationnalisation de ces 2 votes sur le terrain, présidentielle et législative. C'est une date très importante et c'est une volonté du président Kabore pour qu'il y ait la clarté et la transparence dans ces élections, a rassuré Siméon Sawadogo. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo a déjà fait 7 morts à Kera, dans la commune de Korombana, et 9 cas suspects ont été mis en isolement dans des structures sanitaires à Mopti. Selon les autorités sanitaires, des dispositions sont prises pour la contenir. Notre correspondant sur place, Mamoudou Bokoum.
La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est apparue à Kera, dans la commune de Korombana, région de Mopti. L'information est confirmée par les autorités sanitaires. Docteur Agissa Maïga est le directeur régional de la santé.
Depuis le 1er février, on a reçu 9 cas de maladie à fièvre hémorragique qui ont quitté le village qu'on appelle Kera, dans l'aire de santé de Korianze. Immédiatement après la réception de ces 9 malades, notre équipe d'investigation s'est portée sur les lieux pour voir de quoi il s'agit. Donc nous avons fait des prélèvements que nous avons envoyés à Bamako et il s'avérait que c'est la fièvre hémorragique qu'on appelle fièvre Crimée-Congo.
C'est une maladie contagieuse et la transmission est rapide, précise le directeur régional de la santé.
C'est une transmission interhumaine. Là, les premiers cas qui est décédé a pu transmettre la maladie à toute cette communauté. Et tous ces malades ont été transportés, pris en charge aussi, ici. Mais on déplore au niveau du village en question 5 cas de décès liés à cette maladie. Et les 9 cas qui sont venus au niveau de nos structures, il y a eu 2 décès. Mais les 2 décès ont eu un enterrement sécurisé pour ne pas contaminer les autres.
Cette maladie apparaît dans la zone au moment où l'insécurité devient de plus en plus grande, ce qui rend difficile l'accès de la zone pour une meilleure prise en charge sanitaire. Mamoudou Bokoum Amopti pour VOA Afrique.
La communauté Saint-Égidio a organisé mercredi à Abidjan une campagne pour mettre en garde la jeunesse ivoirienne contre les dangers de l'immigration clandestine, et ce après la découverte le 8 janvier du corps de l'enfant Laurent Barthélémy Annie Gibaï dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy. La mort de ce garçon âgé de 14 ans a ému tout le pays, mais a aussi suscité des inquiétudes quant aux failles sécuritaires ainsi révélées autour de l'aéroport d'Abidjan, dans un pays sous la menace djihadiste.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le procès en destitution du président Donald Trump s'est achevé sans grosse surprise hier au Sénat par son acquittement. Monsieur Trump était jugé depuis le mois dernier pour abus de pouvoir et entrave à l'enquête du Congrès. Le point avec Jean-Roger Bion.
La Chambre haute du Congrès a jugé le président non coupable d'abus de pouvoir par 52 voix contre 48, soit le reflet quasi fidèle du rapport de force entre la majorité républicaine et la minorité démocrate, Mitt Romney étant le seul républicain à se ranger du côté des démocrates. Elle a ensuite jugé le président non coupable d'entrave à l'enquête du Congrès par 53 voix contre 47, Romney rejoignant cette fois-ci son camp. Ce vote met fin à une procédure initiée cet automne par les démocrates majoritaires à la Chambre et concrétisé par la mise en accusation formelle du président américain le 18 décembre dernier en séance plénière. Donald Trump était accusé d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et conditionné le déblocage d'une aide militaire à l'ouverture par les autorités ukrainiennes d'enquête contre Joe Biden, son possible adversaire démocrate à l'élection présidentielle de novembre. L'acte d'accusation dressé par les démocrates lui reprochait en outre d'avoir fait obstacle à l'enquête du Congrès au niveau de différentes commissions de la Chambre des représentants en bloquant la transmission de documents et les témoignages de ses principaux conseillers, dont John Bolton, son ex-conseiller à la sécurité nationale. Donald Trump est le troisième président des États-Unis à faire l'objet d'un procès en destitution après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, tous deux ayant été aussi acquittés.
Le nombre de cas du nouveau coronavirus qui s'étend en Chine continentale a atteint 28 018 dans le pays, avec 3 694 cas déclarés en un seul jour, a indiqué jeudi la Commission nationale de santé. Elle a par ailleurs fait état de 73 morts, dont 70 dans la province du Hubei, d'où est partie la maladie, ce qui porte à 563 le total des décès dans le pays.
Une mauvaise nouvelle pour ceux qui se souviennent de l'âge d'or d'Hollywood. La grande vedette Kirk Douglas est décédée hier à l'âge de 103 ans, a annoncé son fils, l'acteur Michael Douglas. Il a écrit sur sa page Facebook « Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa ».
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Bénin a adopté une nouvelle loi pour régir le secteur de l'électricité, mettant ainsi fin au monopole de la Compagnie électrique nationale en termes de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'énergie électrique. Cette réglementation dynamisera le marché électrique béninois en permettant une meilleure implication du secteur privé. Grâce à cette libéralisation, les producteurs indépendants pourront apporter leur appui à la Société béninoise d'énergie électrique dans la course à l'électrification de la population. En République démocratique du Congo, la compagnie australienne minière AVZ Mineros a signé un accord avec le gouvernement pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mpiana-Mwanga. Dans un premier temps, les travaux permettront la relance de deux turbines d'une capacité combinée de 18 MW qui sera étendue à 54 MW par la suite. Cette production servira à alimenter la mine de lithium de Manoko-Kitolo exploitée par AVZ Mineros. Pour terminer, les autorités togolaises ont lancé à Blita, à 262 km de Lomé, les travaux de construction d'une centrale photovoltaïque de 30 MW pour un coût total estimé à 35 millions de dollars, financé partiellement par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Selon l'agence Ecofin, la mise en place et l'exploitation de l'infrastructure sont confiées à l'Emirati Ameer Power. La centrale devrait être opérationnelle d'ici fin juin. Sa capacité sera étendue à 50 MW.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions sont connues.
Oui, le géant égyptien Al Ahly s'est offert un rendez-vous contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Double championne en titre, l'Espérance de Tunis retrouve le Zamalek du Caire. Le Raja Athletic Club de Casablanca fera face au tout-puissant Mazembe. Et enfin, affiche équilibrée entre le Wydad Athletic Club du Maroc et l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Les rencontres se disputent en aller les 28 et 29 février, puis en retour les 6 et 7 mars. En Coupe CAF, à suivre le duel ouest-africain entre Enyimba du Nigeria et Oroya de la Guinée. Le sort oppose aussi Al-Masri d'Égypte à la Renaissance sportive de Berkane, finaliste la saison dernière. Pyramide FC d'Égypte sera face à Zanaco de la Zambie. Et enfin, Al-Nasr de la Libye affrontera Hassania Agadir. Ces matchs se joueront les 1er 8 mars en aller et retour.
Wilfried Ndidi a rechuté.
De retour de sa première blessure, le Nigérien de Leicester a enchaîné deux matchs, le premier face à West Ham en Premier League et le deuxième contre Aston Villa en demi-finale de la Ligue Cup. Mais la troisième tentative n'a pas été la bonne. Alors que le milieu de terrain était pressenti pour jouer face à Chelsea samedi dernier, il a ressenti une douleur au niveau du genou. Sur le site officiel du club, l'entraîneur Brendan Rodgers a fait savoir que la trêve hivernale anglaise va permettre à son joueur de récupérer.
Hubert Velud a signé son contrat avec la Fédération soudanaise de football.
Oui, le technicien français a paraffé un contrat d'un an. Ses objectifs sont notamment de qualifier les Crocodiles pour la CAN 2021 et de faire bonne figure dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après sa première expérience de sélectionneur avec le Togo, qui a tourné court après l'attaque de Cabinda, en Angola, Hubert Velud fera sa première sortie avec le Soudan dès le mois prochain en éliminatoire de la CAN 2021 contre le Ghana dans une double confrontation.
Un entraîneur de la NBA nommé à la tête de l'équipe nigériane de basket.
Oui, Mike Brown, entraîneur adjoint de Steph Kerr à Golden State, est désormais à la tête des D-Tigers à quelques mois des Jeux Olympiques Tokyo 2020. L'annonce a été faite par la fédération sur son compte Twitter. Browns a été entraîneur des Cavaliers de Cleveland, franchise avec laquelle il a atteint la finale NBA en 2007. Il a connu une courte période avec les Lakers de Los Angeles, mais a tout de même remporté le titre d'entraîneur de l'année en 2009. Pour finir avec vous, Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Toronto et Indiana 119 à 118, LA Clippers et Miami 113 à 106, Memphis et Dallas 121 à 107, Denver et Utah 98 à 95, Détroit et Phoenix 116 à 108, Boston et Orlando 116 à 100, Brooklyn et Golden State 129 à 88, Atlanta et Minnesota 127 à 120, Oklahoma City et Cleveland 109 à 103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les parents des étudiants établis à Wuhan, foyer du coronavirus en Chine, sont montés au créneau pour fustiger la déclaration du président Macky Sall, selon laquelle l'État sénégalais n'a pas les moyens de rapatrier ses ressortissants bloqués en Chine. Face à la presse, les parents de ces derniers affirment qu'ils ne comptent pas laisser leurs enfants périr sans rien faire. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay.
Ils sont 13 étudiants sénégalais toujours confinés à Wuhan, épicentre du coronavirus. Leurs parents affirment que l'État du Sénégal a failli en abandonnant ses citoyens dans de pareilles circonstances. Yoruba était leur porte-parole du jour.
Désemparé, le cœur meurtri et amer, et le collectif des parents, suite à la déclaration du 3 février des autorités sénégalaises dans les médias, message certainement tronqué, mais qui a fini de jeter le désarroi, la confusion, et les mois dans l'esprit de beaucoup de parents qui auront simplement retenu que le Sénégal allait livrer ses fils à une mort annoncée.
Pour sauver ces Sénégalais, les autorités sont appelées à reconsidérer leur position. D'après les parents des étudiants bloqués à Wuhan, plus le temps passe, plus les risques deviennent élevés.
Les jeunes qui sont là-bas sont assez inquiets quand même de la situation. Déjà que, comme vous voyez les images des trucs, dans la ville est déserte, personne ne peut sortir. Ils ont des problèmes d'abord pour s'alimenter. Et les risques sont énormes. Ils se frottent à des milliers, des millions de gens. Donc, alors que vraiment leur nombre est très minime. Donc la solution serait vraiment de les expulser, de revenir chez eux.
Même si le Sénégal ne dispose pas de moyens logistiques pour organiser le rapatriement de ses ressortissants, il devrait pouvoir s'appuyer sur la coopération internationale. C'est la conviction d'Elhadj Amsatou Koulibaly, frère d'un des 13 étudiants de Wuhan.
Qui utilise ses relations, au moins avec la France, qui a rapatrié plus de 300 personnes, qui a envoyé deux avions, dont l'un n'avait presque pas de Français, mais des Européens. Donc, je pense que rapatrier 13 personnes, ce n'est pas aussi compliqué qu'on le dit. Si la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie arrivent à rapatrier leurs propres citoyens, je pense que le Sénégal peut le faire. Parce qu'il y a mon frère, son partenaire de chambre, il était mauritanien et il est parti avant-hier. Donc il n'est plus question que Wuhan est mis en quarantaine.
Hormis Wuhan, épicentre du coronavirus, d'autres étudiants et citoyens sénégalais sont bloqués dans des villes chinoises sous quarantaine. Une situation complexe pour les autorités qui font face à la colère des parents et à l'incompréhension de certains Sénégalais. Pour eux, l'impuissance affichée par le président Macky Sall est une faillite d'État. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Mauritanie voisine, l'exode rural entrave le développement local. Le gouvernement décide donc de fixer les populations des campagnes à travers un programme sous-régional qui vise à sécuriser le bétail et à soutenir les femmes, nous dit notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
Au village de Rayane, dans le sud de la Mauritanie, des bergers conduisent des vaches vers le nouveau parc de vaccination.
Il y a des gens qui n'acceptent pas. Mais quand ils voient les résultats des vaccinations pour cette année, les gens, quand ils voient les résultats, pour l'année prochaine, ils encore commencent à encore vacciner.
L'opération est supervisée par le PRAPS, Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel.
Par la grâce de Dieu, nous avons ce parc. Nous sommes tranquilles, plus besoin d'aller ailleurs.
L'idée est de fixer les populations rurales en sécurisant le bétail, leur principale ressource.
Toute activité que le PRAPS mène, génératrice de revenus ou adduction d'eau, c'est pour retenir les populations.
Pour la première fois, des marchés de bétail sont construits pour remplacer les anciens, improvisés et encombrants les centres-villes. Mais pour y déplacer, les éleveurs demandent
du foin, des médicaments, de l'eau et un médecin vétérinaire.
Après Rayane, cap sur Vamlardérat, un autre village.
Ici, c'est un espace qui a été aménagé pour le repos des animaux, mais également leurs convoyeurs.
C'était traditionnel, donc c'était juste un espace ouvert
sans aucune commodité. Bon, nous, on a prévu quand même d'aménager ça un peu, mais tout en restant dans l'idée de préserver cet espace ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de clôture.
Les femmes, la composante rurale la plus fixe, bénéficient d'activités génératrices de revenus. Au village de Kraar Lahmar, par exemple, les capacités de l'ONG Lahmar en tannerie sont renforcées.
Pour les cuirs, la vente devient plus rentable grâce à un meilleur traitement.
Malgré ces actions, le gouvernement peine à fixer les populations rurales. Elles quittent pour la capitale qui offre l'essentiel des services publics.
Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Malawi, depuis le début de la semaine, des violences xénophobes secouent le bidonville de Bui à Lilongwe. Des réfugiés assimilés à des Burundais ont subi de violentes attaques. Leurs maisons ont été détruites et leurs biens saisis par des Malawites. L'année dernière, des Malawites avaient eux-mêmes été victimes de violences xénophobes en Afrique du Sud. Que s'est-il passé dans le township de Bui? Idriss Fall a joint à Lilongwe Floriza Magambi de l'ONG There is Hope, autrement dit, il y a de l'espoir.
Dimanche passé, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des images, des vidéos, des gens qui excavaient des cadavres enterrés dans une parcelle. Après ça, on a entendu des rumeurs que c'était des réfugiés, des Burundais, qui avait fait ces crimes. L'information passait sur le groupe WhatsApp.
Et quel a été l'effet de ce fake news?
Le lundi, au Malawi, c'était, comme vous le savez, une journée de tension parce qu'on attendait le jugement de la Cour à propos des élections. Après que ça a passé, plusieurs familles, plusieurs personnes réfugiées ont été attaquées. On a vandalisé leurs maisons, leurs magasins. On a volé toutes les choses, les frigos, toutes leurs propriétés, et on les a attaqués physiquement. Notre ONG a entendu que dans une zone seulement, il y a plus de 20 familles qui ont été attaquées et ils ont perdu environ 25 000 dollars de matériaux. Multiplier ça 5 fois pour connaître les faits sur toute la ville.
Mais que faisait la police alors?
C'est très triste. La police n'était pas vraiment au courant. Notre directeur a été alerté par les réfugiés même. Donc il est parti à la police et la police a dû utiliser l'argent que nous avons mis à disposition pour aller visiter l'endroit. Et finalement, la police a pu dire devant les médias, la télévision, la radio, les gens qui ont fait ces crimes, c'est des Malawites, ce n'est pas du tout des étrangers.
Est-ce qu'il y a eu des victimes parmi les réfugiés burundais?
On ne sait pas si quelqu'un a été tué, mais ils ont perdu complètement, disons, le capital de leur magasin, ils ont dû s'enfuir. Et il y en a qui sont réfugiés, disons, dans le quartier de la police. Donc c'est la police qui les garde en ce moment.
Est-ce qu'on a idée de combien de réfugiés burundais sont au Malawi?
40 000 réfugiés. Ils ne sont pas tous burundais. Mais dans notre pays, quand on dit un burundais, ça signifie un réfugié. Que ce soit un burundais, rwandais ou congolais même. Le mot burundais ici, ça signifie un réfugié africain.
Xénophobie en Afrique du Sud, et croyait que ça s'arrêtait là-bas, quoi.
C'est triste parce que les Malawis sont victimes de xénophobie en Afrique du Sud. Et dans leur pays, il y en a qui font des victimes d'autres gens. Malheureusement, ça se passe dans tout le monde, d'attaquer des gens qui sont différents. Malheureusement, donc ça fait 3 jours que les étrangers ont été attaqués, mais même pas un politicien, que ce soit dans la capitale ou à niveau national, n'a dit un mot pour encourager les gens à ne pas faire ça. Donc les réfugiés ont besoin d'être soutenus. Et c'est ça notre travail, de donner une voix parce qu'ils ne se sentent pas protégés.
Floriza Magambi de l'ONG There is Hope, c'est-à-dire il y a de l'espoir, jointe à Lilongwe au Malawi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, chaque année, les Américains célèbrent au mois de février le Black History Month, c'est-à-dire le mois de l'histoire africaine-américaine. L'occasion de se souvenir des personnalités et des événements qui ont marqué cette histoire, et aussi pour une bibliothèque de Washington, la capitale fédérale, l'occasion de tenir la Read Africa Week. Il s'agit pour les tout-petits d'une semaine où on leur présente non seulement des livres authentiques sur l'histoire africaine, parfois tronquée, mais aussi une semaine où on leur apprend également certaines valeurs africaines afin de les perpétuer. Par ce biais, on cherche surtout à les rendre fiers de leurs origines et de leurs ancêtres. Reportage de Thierry Kaoré.
À cette deuxième édition de Read Africa Week, Anna Mwalago, poète, comédienne et danseuse kényane, était très attendue. Et pour rappeler certaines valeurs fondamentales en Afrique, elle a tenu à raconter aux enfants l'histoire de Lola, l'oiseau noir et du caméléon. Anna Mwalago, poète, comédienne et danseuse kényane.
La leçon ici était de s'aimer soi-même. Soyez reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné en termes de talent, de dons et de ce que vous êtes.
Aux côtés de leurs parents, dont la plupart sont originaires d'Afrique, ces enfants disent avoir appris beaucoup sur l'histoire. Écoutons Marlene Michel.
J'ai appris l'histoire qui disait les mots et les mots qui exprimaient des souhaits. Et j'ai aussi aimé la partie où on fermait les yeux.
Alimatou Salah est venue avec sa fille.
Je suis une ouest-africaine américaine de première génération. Ma mère est du Libéria, mon père de la Gambie. C'est donc un ancrage très profond et il est très important pour ma fille de savoir d'où viennent ses ancêtres et d'en être très fière.
Read Africa est un programme du Port of Harlem, Gambian Education Partnership, en collaboration avec la bibliothèque Francis Gregory de Washington, D.C., qui vise à donner aux Américains ayant souvent une connaissance limitée de l'Afrique des livres précis et équilibrés qui ont été approuvés par des chercheurs en études africaines, comme le souligne Nyong Wine, président de l'ONG.
Il s'agit de présenter aux enfants des livres qui ont été approuvés par Africa Access et qui ont été vérifiés pour s'assurer que ces livres donnent une vision précise de l'Afrique.
Pour Maria Escher, directrice de la bibliothèque, réunir les plus jeunes autour de ce programme était plus que nécessaire.
Dans cette partie de la ville, la plupart des enfants qui visitent la bibliothèque et vont à l'école ici sont afro-américains. Et nous aimerions nous assurer que nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs aussi pleinement que possible.
Ce fut également une occasion pour ces enfants de s'essayer aux instruments de musique africains et même d'esquisser quelques pas de danse avec leurs parents.
Mandia avec vous, ce jeudi dans Washington Forum, c'est une semaine politique très chargée ici aux États-Unis, avec le début chaotique des primaires chez les démocrates, le discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump et le verdict au Sénat dans son procès en destitution. Alors que chez les démocrates, les électeurs doivent encore départager plus de 10 candidats, le président Trump souhaite prendre une longueur d'avance sur ses potentiels adversaires qui pourraient sortir affaiblis du caucus de l'Iowa. Nous allons évoquer les implications de tout cela sur la campagne avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.